Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la notion d'intérêt national. L'intérêt national comme structure de l'action des États en matière de politique étrangère et socle d'étude des relations internationales. Une notion souvent utilisée pour expliquer, justifier des décisions et des actions et au sujet de laquelle on s'interroge dans le contexte actuel de mondialisation. Quelle place aujourd'hui pour l'intérêt national dans la politique étrangère des États? Dans un monde d'interdépendance généralisée, l'intérêt national peut-il se définir sans le souci des autres dans un environnement de plus en plus imprévisible? Pour cette édition réalisée en partenariat avec la Revue internationale et stratégique, nos invités par téléphone, Vincent Effling, chercheur au Centre d'études des crises et conflits internationaux, spécialiste de l'Iran et de la Turquie, rattaché à l'Université catholique de Louvain. Bonjour.
Bonjour.
À Paris, Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et docteur associé au Centre de Recherche Internationale de Série de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marc Sirouen, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, chercheur à DIAL, Centre de Recherche à l'International et au Développement. Bonjour.
Bonjour.
La notion d'intérêt national, elle est apparue au tournant des 18e et 19e siècles sous l'influence des révolutions américaines et françaises et de l'affirmation de la nation comme corps politique et du peuple souverain. Cette période marque un tournant en ce sens que la conduite des affaires ne se fait plus sur la base des intérêts personnels du monarque mais devient collective. Nous verrons si sur le plan économique on n'assiste pas précisément depuis quelques années à une sorte de retour en arrière avec la politique des multinationales et les questions qu'elles posent quant à l'intérêt national. Le domaine qui nous intéresse est celui de la politique étrangère, davantage que la politique intérieure, même si l'une et l'autre ne sont pas sans lien. Quelle place pour l'intérêt national dans les politiques étrangères des pays? Après plusieurs années de mondialisation, est-ce que l'on assiste à une sorte de retour de l'intérêt national? Et quels sont les facteurs dans un monde d'interdépendance généralisée qui définissent et construisent ce que les gouvernements appellent l'intérêt national? Antoine Bondaz.
Est-ce qu'on a un retour? C'est difficile à dire. Officiellement, l'intérêt national a toujours été la boussole de la politique étrangère. La question, en réalité, est plus de savoir comment est-ce qu'on définit cet intérêt national. Est-ce qu'il est intangible? C'est-à-dire, est-ce qu'il dépend uniquement d'un intérêt objectif propre à un État? Ou est-ce qu'il dépend des majorités qui peuvent se succéder au pouvoir dans les pays? Et la définition de l'intérêt national est donc devenu aujourd'hui le cœur de la recherche sur l'intérêt national. Est-ce que on a, comme vous l'avez très bien dit dans l'introduction, passé d'un intérêt dynastique à un intérêt national? Les Chinois, les Soviétiques, à une époque, parlaient d'un intérêt de la nation, afin de ne pas utiliser ce concept d'intérêt national, considéré comme un concept impérialiste, capitaliste. On cherchait alors à opposer l'intérêt d'une classe dominante, l'intérêt national, à l'intérêt de l'ensemble du peuple, l'intérêt de la nation. Donc si on en revient aujourd'hui à la politique étrangère des grandes puissances, l'intérêt national est censé être au cœur de la définition de la politique étrangère.
Alors, il n'est pas unique, Jean-Marc Sirouen, l'intérêt national, il est plutôt multiple et finalement, il se complexifie au fil des années, étant donné les interdépendances qui prévalent aujourd'hui dans les relations internationales.
Oui, mais ces interdépendances ne sont pas complètement nouvelles. Évidemment, les formes évoluent, mais l'intérêt national a toujours été défendu dans toutes les périodes, mais éventuellement par des moyens différents et avec des différentes conceptions de ce qu'est l'intérêt national. Antoine Bondaz a bien marqué l'opposition qu'il peut y avoir entre l'intérêt national et l'intérêt de la nation. La référence américaine ou la référence de la Révolution française, c'est plutôt l'intérêt de la nation. Mais alors comment mesure-t-on l'intérêt de la nation? Je crois qu'on est passé d'un système de relations internationales sur un système qui était d'abord basé sur le rapport de force. Défendre l'intérêt national, c'est accroître son rapport de force vis-à-vis des autres pays, à une approche plus coopérative qui apparaît au XXe siècle. Et c'est ce système-là, en principe fondé sur la coopération, qui est en crise aujourd'hui, qui fonctionne beaucoup moins bien aujourd'hui. Et on retrouve effectivement des tentations du rapport de force entre les pays, ce qui est très significatif lorsqu'on entend évidemment Donald Trump, mais qui est aussi en filigrane du Brexit dont on parlera peut-être par la suite, ou du discours politique ou populiste qu'on entend un peu partout aujourd'hui.
Vincent Effling, vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit ?
Bah écoutez, je pense que ce qui a déjà été dit est déjà assez complet, mais c'est vrai qu'il faut aussi regarder parfois la manière dont certains États cherchent à définir la notion internationale par rapport à comment nous on la définit parfois aussi en Occident. Je pense à des pays, par exemple, comme l'Iran au Moyen-Orient, qui va prétendre que la définition de l'intérêt national à penser en termes de puissance, penser en termes d'influence, ça n'est pas pour elle, que c'est une notion strictement occidentale, alors que quand on observe de manière empirique la politique étrangère iranienne, eh bien, à bien des égards, c'est assez similaire. On a parlé aussi de la différence dans la manière dont, au sein d'un même État, on pouvait concevoir l'intérêt national, la différence entre les objectifs, mais également aussi entre les moyens. Lorsqu'on entend quelqu'un comme Donald Trump qui dit maintenant ce sera toujours l'Amérique d'abord, on va penser à l'intérêt américain d'abord, je ne pense pas que Barack Obama pensait mettre l'intérêt américain au second plan. C'est simplement, ils ont une définition différente peut-être d'intérêt national américain, une conception différente, et aussi il y a des têtes de différence dans leur chef, dans les moyens de servir cet intérêt. Et alors ce qui est intéressant aussi, on a parlé de la différence entre l'intérêt national et l'intérêt de la nation, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que bien souvent, dans certains régimes autoritaires, on observe que la notion d'intérêt national et d'intérêt de la nation sont utilisées dans la rhétorique politique de ces régimes autoritaires et qu'en fait, ce sont des discours qui servent surtout à justifier une politique qui sert avant tout, non pas l'intérêt national ou l'intérêt de la nation, mais bien l'intérêt du régime. Et ça fait une grande différence.
Alors, intérêt national, intérêt de la nation, il y a une troisième dimension peut-être qu'il est important d'évoquer, Antoine Bondaz, c'est l'intérêt public. Et finalement, comment est-ce qu'on peut situer et positionner les uns par rapport aux autres ?
L'intérêt public serait plutôt lié à des questions de politique intérieure. Dans la politique étrangère, on garde la grande notion d'intérêt national. Pour revenir vraiment à la source, par exemple, de la théorie des relations internationales et du courant majoritaire, qui est le courant réaliste, Hans Morgenthau, qui est ce grand universitaire allemand réfugié aux États-Unis, considérait que l'intérêt est au cœur des relations internationales et que cet intérêt se définit forcément en termes de puissance. Et je rejoins donc ce que disait auparavant le professeur Siroen sur le retour en force des rapports de puissance entre les États. Et donc on a la disparition progressive au niveau international de cette notion même d'intérêt public pour avoir vraiment cette notion d'intérêt national et la volonté de chaque État de se positionner pour la défense de ses intérêts. Comme le disait très bien notre ami à Bruxelles, l'intérêt du régime est en fait fondamental, que ce soit le cas de l'Iran et le cas de la Chine. Mmh. Aujourd'hui, l'intérêt national de la Chine, tel que défini par le gouvernement et le parti communiste chinois, est tout premièrement de garantir le maintien du régime politique actuel. Ce qui veut dire l'intérêt national prioritaire pour la Chine est la survie du régime. Ensuite, il y a deux objectifs qui sont subordonnés, qui sont la défense de la souveraineté chinoise et le deuxième, la poursuite du développement économique. Mais on a bien cette différence entre l'intérêt du régime et l'intérêt de l'ensemble des forces politiques au sein d'un pays.
Alors, on développera peut-être sur l'évolution de l'intérêt national et on reviendra sur le cas de la Chine. Je voudrais juste revenir sur une chose avec vous, Jean-Marc Siroen. Vous évoquiez précédemment les relations entre compétition et coopération. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste au retour du rapport de force que vous évoquiez ? C'est l'un des effets secondaires ou directs de la mondialisation ?
C'est sans doute un des effets de la mondialisation. La mondialisation a fait un peu éclater le système qui avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui voyait à la fois les avantages et les inconvénients de la mondialisation avec un certain nombre de règles, notamment sur le système monétaire et sur le système commercial. C'est vrai que la mondialisation a rendu les choses beaucoup plus complexes. Ça a servi à certains pays, je pense notamment aux États-Unis, de se tirer d'un mauvais pas, notamment d'un point de vue budgétaire, hein, puisque la mondialisation, avant d'être l'échange commercial, c'est l'échange de capitaux. Donc la mondialisation et la fin du système monétaire de Bretton Woods, c'est en fait faciliter le financement du déficit budgétaire américain au départ. Mais il y a le retour du bâton qui est que cette mondialisation rend beaucoup plus difficilement gérable le système qui avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU dans le domaine politique ou le FMI et les accords de Bretton Woods dans le domaine économique. La notion d'intérêt public, les économistes parleraient peut-être plutôt d'intérêt général, est une conception assez différente, je dirais presque du point de vue de la philosophie politique, de l'intérêt national. Derrière l'intérêt national, il y a cette idée que l'intérêt des individus dérive de l'intérêt de la nation. Alors que dans l'approche économique dominante, disons plutôt libérale, qui est une approche beaucoup plus individualiste, l'intérêt de la nation, c'est la somme des intérêts des individus. Donc on part des individus pour arriver à la nation, alors que dans l'approche plus nationaliste, entre guillemets, sans qu'il y ait un côté péjoratif dans ce terme-là, c'est plutôt l'intérêt de la nation, de l'intérêt de la nation, dont dérive l'intérêt des individus. C'est une conception très, très différente, mais qu'on retrouve en filigrane dans beaucoup de discours politiques.
Vincent Efling, vous avez, pour ce dossier de la Revue internationale et stratégique, essentiellement travaillé sur l'Iran. On évoque l'accord nucléaire de juillet 2015, où l'on a vu finalement les factions les plus dures du régime exprimer leur opposition, reprochant à l'accord de ne pas défendre suffisamment l'intérêt national de l'Iran. Quelle place occupe aujourd'hui le référentiel de l'intérêt national dans la politique étrangère de l'Iran?
Bah écoutez, il occupe une place importante, surtout dans le débat politique interne même en Iran, puisque la classe politique iranienne en fait présente une pluralité d'opinions assez importante, en dépit du fait que c'était quand même un régime autoritaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a vraiment des grandes différences de définition de cette notion d'intérêt national. Et dans le cas de l'Iran, elle est intimement liée aussi à la notion de l'identité étatique. Autrement dit, comment est-ce qu'on va s'identifier sur la scène internationale. Il faut savoir que l'idéologie du régime iranien repose en fait sur plusieurs principes, dont les principaux sont la résistance contre l'Occident, la lutte contre l'injustice occidentale. Et pour les plus durs du régime, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à justifier notre existence si on commence maintenant à collaborer avec l'Occident, à passer des accords avec eux, à s'ouvrir économiquement parlant, j'insiste bien sur le économiquement parlant. Et à l'inverse, vous avez des hommes politiques iraniens plus pragmatiques qui vont vous dire que mais voilà, la société iranienne est ce qu'elle est, il y a plus de 50% de la population qui a moins de 35 ans, il y a des évolutions sociales conséquentes, il y a une volonté d'ouverture. Donc si maintenant on n'ouvre pas ne serait-ce qu'un minimum une vanne de sécurité, ça risque d'exploser. Et donc par conséquent, il faut accepter de faire des compromis pour éviter des troubles sociaux en interne et pour garantir la pérennité du régime et donc servir son intérêt national.
Alors, je rebondis sur la notion que vous évoquiez l'un et l'autre, Vincent Efling, Antoine Bondaz. D'un côté, pour l'Iran, défense du régime. Vous le disiez précédemment, Antoine Bondaz, pour la Chine, c'est la défense du Parti communiste chinois. Finalement, c'est toujours la défense d'intérêts bien compris de certains, tout de même, qui passent à travers cette définition, cette notion d'intérêt national. Antoine Bondaz.
Exactement, et dans le cas de la Chine, c'est assez paradoxal, puisque sous Mao Zedong, on refusait encore une fois de parler d'intérêt national en considérant que c'était un intérêt d'une classe dirigeante. Et au final, aujourd'hui, la définition même de l'intérêt national en Chine pourrait être considéré et décrit comme un intérêt de classe, puisque c'est l'intérêt avant tout du Parti communiste. Et donc, la politique étrangère du pays va être décrite, va être formulée afin de garantir une chose, la survie du parti. Et la survie du parti grâce au maintien de sa légitimité aux yeux notamment de la population chinoise. Cela passe encore une fois par la défense de la souveraineté. On va aller des questions du Xinjiang à la question de Taïwan, de la question du Tibet à la question de la mer de Chine méridionale. Et d'un autre côté, la question du développement économique, puisque la légitimité du parti communiste repose aujourd'hui en grande partie non plus sur l'idéologie, mais sur sa capacité à garantir le développement économique du pays. C'est-à-dire garantir que les Chinois seront de plus en plus riches, créer une société de prospérité moyenne, afin encore une fois de garantir la légitimité du régime. Par contre, l'intérêt national de la Chine aujourd'hui s'internationalise en quelque sorte. La Chine étant de plus en plus riche, se développant de plus en plus, il faut désormais protéger les intérêts chinois à l'étranger, garantir la sécurité des ressortissants chinois. Et donc du côté chinois, on a vraiment conscience que l'intérêt national est en train de se complexifier, est en train de s'étendre, et que la Chine doit donc mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité, en utilisant l'outil militaire, de façon beaucoup plus complexe et beaucoup plus étendue qu'auparavant.
Élargissement de l'intérêt national, il va, cet élargissement, en lien, et il est en lien direct avec l'internationalisation des pays, Jean-Marc Sirouen.
Oui, bien sûr. On est dans une période de crise cyclique attribuée à la mondialisation. Il y a une prise de conscience de la montée des inégalités, d'une insatisfaction générale. J'ajouterais même que le développement de cette idée, lorsqu'on regarde bien, c'est les pays capitalistes ou démocratiques membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire en fait les pays qui ont historiquement soit un passé de grande puissance ou qui n'ont jamais renoncé tout à fait à être une grande puissance, et aussi un peu le complexe de puissance déchue que l'on retrouve aux États-Unis, en Grande-Bretagne et d'une certaine manière aussi en France. Donc tout ça a joué effectivement, où la mondialisation qui n'a pas certainement que des avantages, qui a certainement contribué, c'est vrai, à la croissance des inégalités, a quand même été utilisée comme bouc émissaire parce qu'il y a bien sûr bien d'autres phénomènes qui peuvent expliquer cette montée des inégalités dans les pays industriels. Mais la mondialisation a été un bouc émissaire commode, notamment parce qu'il déchargeait les pays de toute responsabilité. La mondialisation, c'est comme je dirais le système, c'est quelque chose qui est très commode parce qu'on y met ce qu'on veut, ce qui permet à tous de s'y retrouver, avec donc après des scores électoraux assez bons. Donc il n'y a pas eu de bilan vraiment fait dans le discours politique ou dans le discours médiatique sur les avantages ou les inconvénients de la mondialisation. Chacun voit directement les implications de l'ouverture qui lui sont plutôt négatives, mais ne voit pas les avantages de l'ouverture ou de la mondialisation qu'il y a par ailleurs. Dans le débat sur le protectionnisme qu'il y a à droite ou à gauche, la question du fait que si on se ferme aux importations étrangères, les autres pays se fermeront aussi à vos exportations est quelque chose qui est finalement, bien sûr, cité, mais qui n'est pas approfondi, qui n'est pas évoqué. Et ce qui reste dans l'idée, c'est que si on ferme nos frontières, on va sauver des emplois, sans voir qu'en contrepartie, d'autres marchés risquent de se fermer.
Et tout cela, c'est de la paresse intellectuelle ou de la volonté de ne pas aller plus loin, Jean-Marc Sirouen ?
Je pense que c'est une conséquence de la crise de 2008. La crise de 2008 a non seulement eu des conséquences énormes du point de vue économique, mais également du point de vue psychologique. Elle a ruiné un certain nombre de classes moyennes aux États-Unis notamment, a contribué à renforcer les inégalités, et tout le monde s'est trouvé un peu en désarroi. Donc la mondialisation était l'accusé commode des troubles qu'il pouvait y avoir, sans voir que la réponse n'était peut-être pas dans ce repli national ou une défense de l'intérêt national qui coïncide souvent, en fait, avec l'idée d'un repli national. C'est la façon acceptable de défendre une position politique qui, en fait, est une position de repli sur soi.
Antoine Bondaz.
Et il y a, au-delà de la mondialisation, un événement extrêmement important qui dure depuis maintenant plus de 25 ans, si on prend la fin de la guerre froide comme marqueur, c'est en réalité le rééquilibrage des rapports de force internationaux, avec l'émergence de la Chine, la réémergence de la Russie, l'émergence du Brésil, de l'Inde et autres, comme des puissances maintenant et des grandes puissances qui comptent sur la scène internationale. Donc on a une montée des inégalités au sein de chaque État, mais au final, moins d'inégalités internationales en termes d'équilibre des forces. La conséquence directe, c'est que, alors qu'il y a 25 ans, les Occidentaux et les Soviétiques faisaient un peu ce qu'ils voulaient sur la scène internationale et étaient, entre guillemets, les maîtres du monde, aujourd'hui, il faut partager cette puissance internationale et surtout partager les responsabilités, etc. Ce qui fait que, pour les Occidentaux, il a été difficile d'intégrer le fait que désormais des puissances non occidentales comptent désormais et qu'il faut prendre en compte également leur intérêt national. Et ce qui va se jouer dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent, et je pense, comme le disait le professeur Sirouen, la crise a eu un impact psychologique extrêmement important. D'un côté, on a eu une nouvelle vague de déclinisme aux États-Unis, c'est pas la première, on peut dire que c'est la cinquième ou la sixième depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et d'un côté, un sentiment de fierté nationale accrue dans les pays non occidentaux moins touchés par la crise. Et ce qui va jouer dans les décennies qui viennent, c'est comment prendre en compte ces nouveaux rapports de force et mieux respecter également les intérêts nationaux des puissances émergentes.
On développera dans la deuxième partie de l'émission cette meilleure prise en compte des rapports de force. Nous retrouvons nos invités Antoine Bondaz, Vincent Effling et Jean-Marc Sirouen dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la notion d'intérêt national qu'elle place aujourd'hui pour cet intérêt national dans la politique étrangère des États. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis la Belgique, Vincent Effling de l'Université catholique de Louvain, chercheur au Centre d'études des crises et conflits internationaux, spécialiste de l'Iran et de la Turquie. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et docteur associé au Centre de recherche internationale série de Sciences Po. Et Jean-Marc Sirouen, professeur de sciences économique à l'Université Paris-Dauphine et chercheur à Dial, le centre de recherche à l'international et au développement. Nous avons quitté la première partie de l'émission sur une thématique que peut-être il serait intéressant que nous développions davantage, et c'est en particulier cette difficulté généralement des pays occidentaux à prendre en compte l'émergence des intérêts nationaux des pays comme la Chine, comme l'Iran. Vincent Effling.
Oui, tout à fait. Et ça se ressent même dans le mode de fonctionnement des institutions internationales. Quand on regarde le Conseil de sécurité des Nations Unies, sa composition avec les membres non permanents et les membres permanents, on ne peut pas nier que si jamais on se pose uniquement sur le critère démographique, notamment, il y a quand même une surreprésentation du monde occidental. Or, siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment y avoir un droit de veto, c'est aussi un facteur de puissance qui permet pour les États de défendre leur intérêt national. Et en fait, c'est un problème parce qu'on n'arrive pas notamment à réformer ce système-là au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ça traduit bien ce qu'on expliquait tout à l'heure, le fait qu'il y a une série d'États qui vivent un petit peu dans la nostalgie de leur puissance passée, qui essayent de maintenir le statu quo, alors qu'à l'inverse, on a les puissances émergentes qui tirent le système international toujours vers plus de multipolarité, et donc on a cette confrontation comme ça qui a lieu, et on a parfois l'impression que c'est très difficile pour les États occidentaux et pour les États développés d'admettre le fait que, eh bien, ils n'ont plus la puissance relative qui était la leur auparavant.
Un commentaire, Antoine Bondaz, Jean-Marc Sirouen.
Il y a un événement qui est extrêmement important, c'est que le début des années 90 a en quelque sorte aveuglé les Occidentaux. L'idée, on reprendra Fukuyama, etc., mais la fin de l'histoire, le triomphe des démocraties, de l'économie de marché, etc., et la question des rapports de force, la question de l'intérêt national, a disparu, même de la recherche académique, avec un retour, avec grand fracas, ces dernières années. L'idée que, effectivement, l'État et les nations demeure au cœur du système international. Les multinationales, les ONG, les opinions publiques ont un rôle, c'est évident, mais l'État garde un rôle prépondérant. En Asie, cette notion est bien comprise, et on parle, c'était le cas de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye, de paradoxe asiatique. On a d'un côté les effets positifs de la mondialisation, une interdépendance économique accrue entre les économies asiatiques, et en parallèle, quelque chose qui est très classique, qui sont les rapports de force, le risque de conflit, le nationalisme. Et ça, c'est une conception qui a été un peu oubliée en Occident, principalement en Europe, plus qu'aux États-Unis, puisque les États-Unis ont quand même mené de nombreuses guerres depuis la fin de la guerre froide. Et en Europe, on a l'impression qu'on redécouvre ces rapports de force, qu'on redécouvre le risque de guerre, qu'on redécouvre le nationalisme, que ce soit désormais de l'Ukraine à la Syrie, en passant par la Libye, etc. Et on a ce réveil un peu douloureux des Européens face aux réalités de ce monde.
Jean-Marc Sirouen, qu'est-ce que l'on peut dire de la place de l'intérêt national dans les négociations commerciales internationales? Est-ce qu'on peut limiter l'intérêt national aux gains attendus en termes de produit intérieur brut?
Dans les faits, c'est bien ce qui se passe, puisque lorsqu'on ouvre des négociations commerciales, la première chose que l'on fait, c'est d'estimer les conséquences que cela aura sur le PIB. Évidemment, c'est très réducteur, donc déjà on peut critiquer les méthodes, on est très souvent sur la marge d'erreur. Donc les gains attendus sont pas forcément considérables, mais ça reste effectivement la référence. On s'est beaucoup moins interrogé sur le partage de ces gains, c'est-à-dire que même si on admet que, on va dire, la mondialisation ou l'ouverture commerciale augmente le PIB de l'ensemble des pays participants, qu'il n'y a pas de perdant exprimé en termes de pays, on s'est beaucoup moins intéressé aux conséquences à l'intérieur. Les économistes ont toujours considéré, mais assez discrètement, que le commerce international avec des pays qui sont très inégalement développés, c'est-à-dire le type de commerce qui s'est développé depuis les années 80, justement, pouvait avoir des effets négatifs sur les inégalités, sur le pouvoir d'achat, pour parler dans un langage marxiste, des travailleurs, en tout cas, par rapport aux détenteurs de capital. Mais ça n'a pas été repris par les responsables politiques qui se sont largement désintéressés de ces effets possibles sur les inégalités. Et là encore, on a un certain retour de bâton des opinions publiques. Donc il y a eu effectivement, certainement, une certaine négligence sur, au nom de la rationalité économique, au nom de l'intérêt national, on ne s'est peut-être pas suffisamment intéressé aux intérêts des différentes catégories de la population à l'intérieur des nations. Ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Mmh. On s'est reposé sur un donnant-donnant, c'est-à-dire que l'ensemble des pays acceptaient de s'ouvrir dans certains secteurs en échange de l'ouverture des autres pays. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on regarde l'ouverture à l'intérieur en oubliant l'ouverture des autres pays dans une relation de coopération plus ou moins symétrique, davantage mutuelle ou de donnant-donnant.
Alors, on va parler du Brexit. Vincent Effling, j'ai encore une question sur l'Iran. Est-ce que finalement, on pourrait dire que l'intérêt national iranien varie autour de la position de Téhéran à l'égard des États-Unis plus que n'importe quoi d'autre ?
Disons qu'en termes de politique étrangère, oui, c'est vraiment la charnière, c'est la pierre angulaire. C'est quelle position adopter à l'égard des États-Unis et, dans une moindre mesure, à l'égard de l'Occident au sens large. C'est vraiment une question centrale. D'ailleurs, on l'a bien vu avec le changement de présidence aux États-Unis. Lorsqu'Obama est arrivé à la tête des États-Unis, Barack Obama a entamé sa politique de la main tendue avec les Iraniens. Ça a mis vraiment les conservateurs dans l'embarras parce qu'ils se sont dit « voilà quelqu'un qui ne joue pas les règles du jeu traditionnel ». En plus de ça, Barack Obama était quand même un champion de la diplomatie publique et de la communication. Il nous donnait une image positive. Il a augmenté d'une certaine manière sous sa présidence le soft power des États-Unis. Et il était très populaire parmi la jeunesse iranienne. Ça inquiétait beaucoup les élites politiques en Iran. Quand Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche et qu'il a changé complètement la rhétorique des États-Unis à l'égard de l'Iran, sur le fond et sur la forme, en Iran, les conservateurs ont sauté de joie. D'ailleurs, pas plus tard qu'au mois de février de cette année, le guide suprême Ali Khamenei, à l'occasion d'une allocution devant des officiers de la marine iranienne, a remercié d'une manière très sarcastique le président américain en disant que grâce à lui, l'Iran n'avait plus besoin de chercher à diaboliser les États-Unis parce qu'il s'en chargeait très très bien tout seul. Donc on voit très bien que cette question des rapports entre Iran et États-Unis, eh bien en fait elle est centrale dans la politique étrangère iranienne parce que leur régime repose sur cet antagonisme et cette lutte contre cette injustice, parce qu'ils appellent cette injustice occidentale. Donc si maintenant l'Occident apparaît de manière trop positive, notamment grâce à des figures comme Barack Obama, ça devient plus difficile pour eux eh bien, de justifier cette haine et cette résistance à l'égard de l'Occident.
Une notion tout à fait intéressante. Le Brexit, la décision donc du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne après le référendum du 23 juin dernier. On ne peut que constater que la totalité des intérêts britanniques peuvent se retrouver finalement totalement et radicalement réorganisés. Les partisans de la sortie et ceux de son maintien prétendent incarner chacun l'intérêt national. Comment s'y retrouver, Antoine Mondaz ?
Encore une fois, tout dépend de la définition conceptuelle de l'intérêt national. Et ce qui semble apparaître de plus en plus en Europe, mais aussi aux États-Unis, c'est l'opposition entre d'un côté une définition extrêmement objective, rationnelle, et de l'autre côté la définition d'un intérêt national, plus en termes de valeur et surtout en termes d'identité. Et cette notion identitaire semble être vraiment une notion émergente. On l'a vu sur le Brexit, on l'a vu aux États-Unis, on le voit dans la campagne française et dans les campagnes politiques en Europe de l'Est, etc. Ce qui pose en réalité beaucoup de questions, puisque si on ne peut plus définir l'intérêt national de façon objective, alors il y a un nombre de définitions infinies et tout va dépendre ensuite de la capacité des décideurs politiques à convaincre leurs compatriotes. Et dans le cas du Brexit, on l'a bien vu, les arguments n'étaient pas forcément rationnels, et ceux qui ont utilisé les arguments rationnels, c'est-à-dire ceux qui votaient pour le Remain au sein de l'Union européenne, ont perdu et n'ont pas réussi à convaincre, alors même que leurs arguments sur le plan purement objectif et sur le plan économique étaient plus importants et avaient du fond concrètement par rapport aux arguments du Leave.
Jean-Marc Sirouen.
Peut-être une petite remarque préalable sur la conception de l'Europe. Hein. L'Europe, ça a été un moyen pour la France de lutter contre l'idée qu'elle serait jamais une grande puissance. Donc elle serait jamais une grande puissance, mais elle pourrait redevenir une grande puissance via l'Europe. C'est pas tout à fait la conception allemande, où il s'agissait plutôt de se réconcilier avec l'Europe. Mais la conception, je dirais, gaullienne ou mitterrandienne de l'Europe, c'était celle-là. On sera une grande puissance dans l'Europe. L'attitude de la Grande-Bretagne n'était pas exactement celle-là. La fameuse conférence de presse du général de Gaulle est assez instructive d'ailleurs sur ce plan-là. On a voulu, après la guerre, maintenir notre empire et des relations privilégiées avec cet empire. Ça marche pas. On se résigne à entrer dans l'Europe, mais on va entrer dans l'Europe pour changer la fonction de l'Europe, en faire une grande zone de libre-échange qui se substituera à l'ancienne zone de libre-échange du Commonwealth ou de l'Empire britannique. Et c'est 40 ans, plus de 40 ans après, le constat que l'Angleterre n'est pas parvenue à transformer l'Europe dans ce sens-là, qu'est venue la question du Brexit. Alors, avec une énorme ambiguïté, c'est-à-dire que dans le Brexit, vous avez les partisans, effectivement, du repli sur soi, et vous avez les partisans, au contraire, d'une ouverture au monde. C'est-à-dire, on quitte l'Union européenne, non pas parce que l'Union européenne est un élément de mondialisation, mais parce qu'elle nous empêche de nous mondialiser comme on veut. Et c'est bien la position que prend aujourd'hui Theresa May, qui est de dire, finalement, l'Europe nous empêche de nous mondialiser comme on veut. Nous, on va être davantage mondialisés, notamment avec notre ancien empire. C'est là où il y a une sorte d'illusion, de rêve et de déni de la part de la Grande-Bretagne, en nouant des accords avec le Canada, avec l'Inde, enfin, avec l'ancien empire. Donc il y a une énorme ambiguïté dans le Brexit, qui est la convergence d'une conception très nationaliste et une conception beaucoup plus libérale, qui est plutôt celle de Boris Johnson. Je ne sais pas, au final, ce que ça va donner pour Madame May.
Mais c'est une contribution, Jean-Marc Sirouane, si on va plus loin, à ce retour, la réémergence de l'intérêt national que nous évoquions en début d'émission.
Plus que ça, là, c'est l'intérêt national vu par l'intérêt reposant sur un empire. La Grande-Bretagne ne va pas envoyer ses bateaux comme elle l'a fait pour les Malouines pour reconquérir l'Inde, bien sûr. Mais en tout cas, c'est cette idée que l'influence britannique est restée suffisamment forte pour qu'elle soit mise au service, effectivement, de l'intérêt de la Grande-Bretagne, l'intérêt national de la Grande-Bretagne, d'ailleurs, je ne sais même pas, plutôt de l'Angleterre, pourrait-on dire, au service de l'intérêt de la Grande-Bretagne, mais sur la base des relations héritées, ce qui reste des relations héritées par l'Empire et qu'on veut faire revivre d'une manière qui me paraît totalement vaine en ce qui me concerne.
Alors, Royaume-Uni, Grande-Bretagne, il y a des choses dont on ne sait plus très bien.
Là, on voit que l'intérêt national de l'Angleterre, c'est plutôt de conserver l'Écosse et l'Irlande du Nord, et que le Brexit va peut-être contredire cette volonté.
Alors, justement, pour aller plus loin, là encore, qu'est-ce que l'on peut dire du rôle des sécessionnistes aujourd'hui sur le registre de l'intérêt national? Vous évoquez l'Écosse, il y a aussi la Catalogne, en Espagne, Jean-Marc Sirouane.
Vous avez deux courants sécessionnistes. Vous avez un courant sécessionniste qu'on retrouve là je parle sous le contrôle de mon collègue à Bruxelles, qu'on retrouve peut-être en Belgique, qu'on retrouve avec l'Italie et la Ligue du Nord. Mais vous avez aussi un courant sécessionniste très fort qui est très très libre-échangiste. C'est le cas du Québec, c'est le cas de l'Écosse, c'est le cas de la Catalogne également. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il se dit, j'ai pas tellement besoin du marché anglais, j'ai pas tellement besoin du marché canadien, j'ai pas tellement besoin du marché espagnol si j'ai le marché mondial. Et donc, assez fréquemment dans ces courants sécessionnistes, c'est au contraire des courants qui sont très ouverts sur le monde. Ou qu'il était, peut-être que les choses vont évoluer. Mais en tout cas, ça le reste, je pense, pour le Québec ou pour l'Écosse, peut-être un peu moins pour la Catalogne. Ce sont des pays qui ne demandent la sécession que pour bénéficier du marché européen pour d'entre eux ou du marché mondial pour le Québec.
Vincent Effling.
Oui, alors, si je peux dire un petit mot par rapport à la situation en Belgique. Je me base sur des études qui ont été réalisées par des collègues à moi, aussi bien dans mon université que dans d'autres à travers notre royaume. Eh bien, en fait, en Belgique, c'est assez intéressant parce qu'on remarque qu'en France, souvent, vous avez une perception du conflit qui oppose les Wallons et les Flamands comme si c'était un conflit uniquement linguistique. Et en fait, les études qui ont été faites montrent que parmi ceux qui sont plutôt séparatistes du côté de la Flandre, il n'y en a vraiment qu'une infime minorité, on est en dessous des 5%, qui sont pour une séparation dure ou pour plus de séparation politique entre les deux entités du pays, non pas à cause de la langue, mais bien à cause des différences de culture politique. Le sud du pays est beaucoup plus à gauche, ancré à gauche de l'échiquier politique. Le nord du pays est beaucoup plus, lui, ancré à droite. Et ce qui déplaît beaucoup au nord du pays, c'est qu'avec le poids important du sud du pays qui est très ancré à gauche, ils ont l'impression de traîner une ancre qui les empêche d'avancer dans la direction politico-économique qu'ils souhaitent. Donc ici, ils ont un raisonnement pour la plupart des électeurs qui votent plutôt nationalistes et qui votent pour plus de séparation du pays. Eh bien en fait, le raisonnement est très économique. C'est vraiment une analyse coût-bénéfice avec une certaine perception de la situation économique. Et on n'est pas tant que ça dans le registre de l'émotionnel, dans le registre de l'identité véritablement nationale ou linguistique. C'est plus l'identité politique et économique.
Une dernière notion pour terminer cette émission, c'est celle de la difficulté de certains États, ou peut-être de plus en plus d'États, à faire coïncider conception de l'intérêt national et diversité ethno-culturelle intérieure. Je pense aux jeunes musulmans européens qui sont de plus en plus nombreux à considérer les gouvernements de l'Union européenne comme négligents et parfois complices des souffrances des populations palestiniennes, irakiennes, libyennes. Un commentaire ?
C'est une question extrêmement complexe. L'intérêt national, théoriquement, est censé être la somme des intérêts au sein d'une nation et donc est censé aussi représenter les intérêts des minorités. Si on prend le cas des grandes puissances asiatiques, il est clair aujourd'hui que l'intérêt national de la Chine apparaît plus comme l'intérêt des Han que des 51 minorités dans le pays. Cependant, et là il peut y avoir une évolution qui peut apparaître comme intéressante, c'est une sorte de politique étrangère au niveau des provinces. Je prends le cas de la Chine. Est-ce que la Chine va autoriser de plus en plus ses provinces à développer une politique étrangère? Ce qui peut permettre indirectement, et de façon encore une fois limitée, pour ces minorités, et notamment les provinces autonomes, je pense par exemple au Ningxia, je pense au Tibet ou d'autres provinces, de mettre en avant une certaine identité et de défendre l'intérêt des provinces et donc des minorités qui y vivent. Ça, c'est une grande question et donc on n'est pas au niveau de la diplomatie État à État, on serait plus sur une diplomatie de province à province. Encore une fois, cette question du respect des minorités et de la défense des intérêts des minorités s'apparentera avant tout à des questions de politique intérieure, plus qu'à des questions de politique étrangère.
Jean-Marc Sirouane ?
Oui, je ne pense pas qu'il y ait tellement des récriminations qui s'adressent à l'Union européenne particulièrement, elles s'adressent aux Occidentaux en général, plutôt le passé colonial, les différentes interventions des pays occidentaux, de la Turquie, Palestine, les anciennes colonies d'Afrique du Nord, c'est plutôt ça qui est mis en cause, avec le reproche qui est fait justement d'avoir un peu trop cassé les identités nationales, avoir utilisé les minorités nationales dans ces pays les unes contre les autres. Et je pense que c'est plutôt ça qui est reproché. Mmh. Mais c'est pas l'Union européenne en tant que telle qui est en cause. Ce sont les Occidentaux, tous ceux qui sont intervenus dans une certaine période, finalement relativement récente, dans ces pays.
Vincent Effling, en guise de conclusion, très rapidement.
Oui, mais dans la formulation de votre question, vous avez parlé notamment du sentiment d'injustice ressenti par exemple par les minorités musulmanes à l'égard de la situation au Proche-Orient. On pense bien évidemment à la colonisation, etc., en Israël. Bon, quand on parle d'un sentiment d'injustice, on est quand même dans le registre de l'émotionnel. On a parlé tout à l'heure du retour en force du réalisme. Le réalisme, c'est notamment basé sur l'analyse coût-bénéfice, c'est basé sur le pragmatisme, et c'est une approche qui doit faire, selon les modalités théoriques, fi de tout ce qui est idéologique ou tout ce qui est contrainte morale. Et les premiers penseurs réalistes le disaient très très bien. Et il y aura inévitablement des tensions entre la nécessité de maximiser l'intérêt national et les lois morales non écrites qui régissent le monde. Et comme c'est très bien dit par mon collègue à Paris, eh bien je pense que c'est une question qui relève un peu plus du domaine de la politique intérieure que de la politique étrangère.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Vincent Effling, vous étiez avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes rattaché à l'Université catholique de Louvain, que vous êtes chercheur au Centre d'études des crises et conflits internationaux et spécialiste de l'Iran et de la Turquie. Merci aussi à Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et docteur associé au Centre de recherche internationale série de Sciences Po. Merci également à Jean-Marc Sirouane, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine et chercheur à Dial, le Centre de recherche à l'international et au développement. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Marjorie et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique sera consacrée à la situation en Irak et en Syrie. À samedi.